pourquoi est-ce que Job a été mis à l'épreuve? Ben, vu le témoignage de Dieu, d'un homme intègre et juste, pourquoi l'éprouver? Il est parfait. Mais Dieu avait une raison. Et lorsque nous lisons le début, et puis après nous lisons la fin, le dernier chapitre, eh bien nous voyons que Job lui-même a compris que c'était bénéfique. Donc l'épreuve, la différence entre une tentation et une tentation c'est fait pour faire chuter. Et donc c'est toujours Satan qui tente. Mais l'épreuve c'est fait pour nous affermir. Et donc Dieu permet les épreuves. Parce que c'est pour notre croissance. Alors, il y a une première situation, c'est justement cette justice humaine. Job, du point de vue humain, du point de vue de la société, du point de vue des exigences de Dieu, du point de vue de son comportement, son attitude, ses pensées, eh bien c'était un homme juste. Ils disent, il y a un homme intègre et juste. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et là, une épreuve terrible, une souffrance terrible. Et là, nous avons lu seulement la première partie qui ne touche pas à sa vie, mais ensuite le Seigneur lui permet de toucher sa santé. Et il y a une souffrance terrible. Et il y a trois amis qui entendent parler de ce qui est arrivé à Job. Ils viennent le voir et eux, pendant une semaine, ils n'ont pas un mot à dire, tellement ils le voient dans un piteux état. Assis sur la cendre et en train de se gratter avec des morceaux de poterie, tellement ça le démange. Et donc vous pouvez, je vais pas décrire la scène plus que cela, mais ses amis, ils étaient vraiment, ils ne pouvaient pas parler pendant une semaine. Mais finalement, au bout d'une semaine, eh bien, ces trois amis de Job vont commencer à parler l'un après l'autre et ils auront un même langage. Eux vont se dire, mais si cela t'est arrivé, c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie. Et donc vous regardez avec moi par exemple au chapitre 4, donc Job chapitre 4 et les versets 7 à 9. Alors c'est Eliphaz de Téman. Il dit « Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. » Il dit « Regarde, des gens justes, ils n'arrivent pas de malheur. » Mais les gens qui pêchent, eux, eh bien Dieu est contre eux. Alors c'est à toi de juger. Tu le sais. Alors nous ne savons pas ce que tu as fait, mais toi tu dois savoir. Alors confesse-le. Vous regardez au chapitre 8, hein, c'est le second ami. Au chapitre 8, donc c'est Bildad de Shua. Et au verset 20. À 22, il dit, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Il dit, celui qui intègre est juste, il est dans la joie. Celui qui a péché, eh bien, c'est la souffrance. Donc, Job, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ta vie, ça ne va pas. Le troisième ami, il aura encore la même pensée au chapitre 11, hein, donc Tsophar de Naaman. Et lui, au verset 13 à 14, il dira, « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends ta main, vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tâche. » Et tu seras ferme et sans crainte. Oui, alors tous les trois disent, écoute, nous sommes tes amis, mais si tu souffres de telle manière, c'est qu'il y a quelque chose de grave dans ta vie. Alors, règle ça. Mais ils ne savaient pas quoi. Ces hommes, ils étaient pourtant ses amis, mais ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose dans sa vie qui ne convienne pas. Ils n'avaient pas d'accusation, mais ils avaient cette interprétation, cette doctrine qui court encore de nos jours, que si tu as un malheur, c'est que tu as péché. Vous savez, c'était un peu la même question que soulevaient les disciples à l'époque de Christ quand ils ont vu l'homme né aveugle. Et ils ont dit, Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Ses parents ou c'est lui? C'est difficile de dire que ce soit lui, hein, parce qu'il n'était pas encore né, il est né aveugle, il n'avait rien fait encore. Et dire que ses parents, c'est vraiment, ça fait injuste de dire que les parents ont péché, c'est l'enfant qui souffre de sa vie. Alors ils ont posé la question, parce que pour eux c'était, s'il y a souffrance, c'est à cause de péché. Et lorsque nous lisons dans Jean 9, les versets 1 à 3, Jésus répond et il dit que ce n'est pas toujours le cas du péché. Ce n'est pas toujours la conséquence du péché. Jean chapitre 9, et les versets 1 à 3. Je lis ces versets. Il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ?» ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Écoutez la réponse du Seigneur. Il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et c'est pour cela que le livre de Job est d'une telle consolation pour nous. Ce n'est pas parce que Job a péché, ou que ses parents aient péché, ou que ses enfants aient péché, mais c'est que pour que Dieu soit glorifié et qu'on voit l'œuvre de Dieu dans sa vie. Job, bien sûr, on l'accuse, on lui dit, mais il y a du péché dans ta vie. Et puis alors, lui, il cherche dans sa vie. Il cherche. Et puis, au chapitre 9, verset 21, il dit, innocent, je le suis. Il dit, moi, je ne trouve rien dans ma vie qui soit un péché. Je n'ai rien à confesser. Bon, moi, je ne me trouve pas dans cette situation-là, mais Job a pu le dire. Et je pense que sincèrement, nous venons de Dieu, et puis c'est inspiré de cette manière. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est sans péché, hein, parce que nous savons que tout homme est pécheur. Job même fait passer sa vie par une grille. Et regardez avec moi dans le chapitre 31. Job chapitre 31, et voyons cette grille. Et en fait, ce serait pas mal pour nous, de nos jours, de nous évaluer selon cette grille aussi. Et cette grille a 13 points. Hein, quand vous allez emmener votre voiture dans un garage, et puis vous dites, voilà, on fait le vidange, et puis on fait un contrôle de 20 points ou de 40 points. Et bien ici, Job, il dit, moi, 13 points. Et voyons-les rapidement. Déjà au verset 1, c'est le premier, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Première chose, point numéro 1, mes yeux. Et de regarder la manière dont il regardait sur une jeune fille. Il a dit, non, là, je n'ai pas fait parce que j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et bon, ce serait une bonne chose de nos jours aussi de faire cela. Deuxièmement, c'est au verset 5. Il dit, si j'ai marché dans le mensonge et si mon pied a couru vers la fraude. Il s'est évalué selon ce point-là. Si il y a mensonge quelque part, s'il y a injustice, fraude quelque part, ou il a trompé quelqu'un. Il a dit, j'ai vérifié dans ma vie. Et non, là, je ne suis pas coupable. Verset 7. Il dit, si mon pied ne s'est pas détourné du droit chemin, et si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains. Il dit, je regardais pour voir s'il y a une injustice, un péché, une souillure, quelque chose qui a pu ternir ma relation avec Dieu. Il a dit, je ne vois rien. Le quatrième point, c'est au verset 9. Il dit, si mon cœur a été séduit par une femme, mais si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain. Il dit donc, convoiter l'épouse de quelqu'un, convoiter la fille de quelqu'un. Il dit, j'ai regardé pour voir si je n'ai pas été coupable de cela. Il dit non. Cinquième point, verset 13. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi. Il dit, ils sont venus me voir et dire, patron, il y a un petit problème. Il dit, j'ai regardé pour voir si j'avais toujours été juste avec mes serviteurs, avec mes salariés, avec ceux à qui je devais quelque chose. Est-ce que j'ai toujours donné leur dû? C'est pas parce que lui était riche, le plus riche, et que eux étaient faibles économiquement, qu'il fallait abuser d'eux. Il a dit, non, est-ce que je les ai respectés dans leurs droits? Sixième point, au verset 16, il dit, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils me demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin ait sa part. Il a dit, je vais une fois, là aussi, est-ce que je n'ai pas partagé avec celui qui était dans le besoin autour de moi? Et il a dit non, j'ai toujours été fidèle là. Le point numéro 7, verset 19. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Il a dit, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui avait froid, qui était dans le besoin, et je ne lui ai pas donné ce qu'il fallait pour le vêtir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a quitté et puis qui est allé souffrir du froid? Il a dit, j'ai vérifié. Vous savez, c'est quelque chose que Jacques reprend dans l'épître de Jacques. Il dit, comment dire à quelqu'un, va et que le Seigneur te réchauffe, et puis je ne lui donne rien. Donc le problème, il persiste et il peut exister encore aujourd'hui. En église, on salue, quelqu'un qui est dans le besoin, on dit, oh, que le Seigneur te bénisse, et je prierai pour toi, et puis on le laisse partir. Il part vers quoi? Verset 21, c'est le point numéro 8. Il dit, si j'ai levé ma main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure et que mon bras tombe et qu'il se brise. Il a dit, si j'ai profité de l'orphelin, si j'ai profité de ma bonne relation avec ceux qui avaient le pouvoir, et on a abusé du droit de l'orphelin, du plus faible. Ensuite, neuvième point, c'est verset 24. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit à l'or, tu es mon espoir. C'est-à-dire si, finalement, je me suis confié à mes richesses. Il a vérifié ce point-là. Dixième point, verset 26. Si je regardais le soleil quand il brillait, ou la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, et si ma main s'est portée à ma bouche. D'ici à un moment où j'étais tenté, je me suis détourné de Dieu pour me tourner vers un autre pouvoir, le soleil, la lune. Et dans nos vies tous les jours, des fois on se détourne et on s'appuie sur un autre pouvoir que celui de Dieu. Il a dit, j'ai vérifié pour voir si à aucun moment j'étais tenté de me détourner de Dieu pour recevoir d'une autre puissance. Le point numéro 11, verset 29. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, et si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint. Ah, est-ce que je me suis réjoui quand le malheur a frappé celui qui m'a fait du tort? Je veux dire, ben, c'est bien fait pour lui, voilà, c'est la justice. En passant, la petite fille là, de Naaman, la servante de Naaman, elle. Il aurait pu, quand Naaman avait la lèpre, elle aurait dit, ben, c'est bien fait pour lui, avec le mal qu'il a fait. Non, elle a cherché son bien. Donc, ça c'est une question à se poser. Est-ce que je me réjouis, même si on m'a fait du tort, mais il lui arrive un malheur, je ne me réjouis pas. Le deuxième point, c'est verset 32, il dit « Si l'étranger passait la nuit dehors et que je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs. » Il dit « J'ai vu quelqu'un qui était dehors et je n'ai pas fait rentrer quand j'avais les moyens de le recevoir. » C'était l'hospitalité. Ça, c'est une chose dont on parle très peu encore de nos jours, hein, en tant que chrétien, l'hospitalité. Mais pourtant, le Nouveau Testament est rempli, hein, il nous encourage à l'hospitalité. Et puis le 13e point, c'est au verset 33, il dit « Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein. » Il a dit « J'essaie de couvrir une faute. » J'ai essayé de cacher. Personne n'est au courant. Hein. David a essayé de cacher, mais Dieu a vu. Et c'est fou ce qu'on est capable de faire pour cacher une faute. Et combien de mensonges on peut raconter pour couvrir une faute. Et finalement, on commet tant de fautes pour couvrir une faute. Et plus on couvre, plus on s'offense. Job a dit, j'ai fait passer par ma vie, par ce grill. Cette grille, je passe. Et donc je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi ce malheur me frappe si j'ai péché. Je ne sais pas. Et donc, finalement, Job est innocent devant les hommes. Devant la justice humaine, il passe. Il passe partout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même Satan ne peut pas l'accuser. Hein, Satan, il sait ce qu'on fait. Il veille surtout ceux qui sont fidèles à Dieu. Et même Satan, il n'a pas quelque chose à dire. Il n'a rien à reprocher. Donc, Dieu a bien parlé de lui. Il a dit c'est un homme intègre en toutes choses. Les amis n'ont pas pu trouver quelque chose. Satan même n'a pas pu trouver de quoi accuser, alors qu'il est l'accusateur des saints. Il y aurait de quoi se dire je suis pas mal, hein. Vous savez, ces trois amis ont avancé cette théorie, hein, cette fausse théorie de Satan. Satan dit, Dieu dit, tu l'as vu? Il dit, oui, mais bon, c'est normal. Parce que, et voilà la théorie de Satan, c'est l'abondance matérielle, eh bien, rend l'homme bon. Ah, c'est une théorie qui est encore aujourd'hui. Hein. Après la dernière guerre mondiale, ils se sont dit, mais si les gens sont à l'aise matériellement, ça ira mieux. Les hommes ne seront pas méchants. Mais bon, depuis la dernière guerre, on regarde autour de nous, ça ne s'est pas amélioré. Hein. C'est pas... Mais Satan, mais bon, tout ce que Satan dit, même si ça paraît bon, c'est toujours faux. Hein. C'est le père du mensonge. Il ne sait que mentir. Et lui, il a avancé sa théorie à Dieu, il a dit, écoute, mais c'est parce qu'il est béni, c'est parce que tout va bien pour lui, c'est pour ça qu'il est fidèle. Et combien, peut-être, des chrétiens se sont imaginés, dit, mais si j'étais béni comme un tel, moi aussi, hein, et moi, mon argent, je donnerais pour l'œuvre de Dieu, je ferais des bonnes choses, je serais là au service de tous. C'est bien facile de le prétendre. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés qui ont encore cette attitude. Je crois qu'il y a beaucoup de sagesse dans cette prière de Agur, dans le proverbe, dans le livre des proverbes, le recueil des proverbes, et au chapitre 30. Je vais vous lire sa prière. Vous la connaissez peut-être, c'est bon de la rappeler. Donc elle se trouve dans Proverbes, chapitre 30, et les versets 8 et 9. Voici la prière d'Agur. Il dit « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Agur a compris, il a dit « Je veux être ni dans l'abondance, ni dans la pauvreté. La tentation, lorsque je suis dans la pauvreté, c'est de reprocher quelque chose à Dieu, de ne m'avoir oublié. Et si je suis dans l'abondance, je l'oublie. Et Agur dit, Seigneur, je veux être entre les deux. Pour que j'ai, et j'ai de quoi te remercier, et en même temps, je n'ai pas tant que je t'oublie. Et c'est cet équilibre-là parce que la tendance est là. Hein? Donc c'est pas parce que j'ai tout que je serai fidèle. Finalement, c'est un risque. Pensez à Salomon. Salomon qui avait tout, son état spirituel était pire à la fin de sa vie qu'au début de sa vie. Dieu avait apprécié sa prière de jeunesse. Et Dieu lui a donné sagesse, richesse, longue vie. Et à la fin de sa vie, eh bien, il n'est plus un modèle. Et il est obligé d'écrire en tant qu'ancien, en tant que vieillard. Il écrit le livre de l'Ecclésiaste et il rappelle à son fils, il dit, fais pas comme moi. Non. Donc ne cherchons pas le confort en disant, ben, si j'avais tout. Si j'avais du travail, si j'avais une famille, si j'avais ceci, cela, oh, ce serait facile d'être chrétien. Non, non, c'est jamais facile. La justice humaine, on peut la trouver avec beaucoup d'efforts. Il y a des gens non chrétiens qui finalement se comportent mieux que les chrétiens. Hein. Vous avez peut-être certainement eu l'expérience. Donc finalement, la justice humaine, elle peut être atteinte jusqu'à un certain point. Mais c'est pas ça, c'est pas pour cela qu'on vient. Dieu va parler à Job et Job va devoir reconnaître qu'il est pécheur. Il est pécheur de nature. Même un pécheur qui ne commet pas de péché est pécheur. Un chien qui n'aboie pas est quand même un chien. Hein, mais Job reconnaît qu'il est pécheur lui-même. Hein, dans Job 13, verset 23, il dit « Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. » Il dit « Montre-moi mes péchés. » Et puis au chapitre 13, verset 26, il dit « Pourquoi me punir pour les fautes de ma jeunesse ?» Ah, oui, Job parle de son état présent. Et Dieu, quand il s'est prononcé sur Job, il parlait de l'état dans lequel il était ce jour-là, intègre et droit. Mais Job lui-même se souvient et sait que, oui, quand j'étais jeune, j'ai quand même, ça n'a pas toujours été ça. Et parfois, vous savez, combien de fois nous nous présentons à Dieu, mais nous nous présentons avec notre justice de l'instant présent. C'est-à-dire aujourd'hui, là, maintenant, je suis de tout cœur avec toi, je te prie, je t'adore, je te loue, bénis-moi. Mais il faut comprendre que quand Dieu nous regarde, il voit globalement, il voit toute notre vie. Mais c'est afin de mieux nous pardonner. Mais je veux dire deux mots sur les péchés de la jeunesse. Job a dû en faire face, il a dû s'en souvenir. Et il dit, Dieu, ne me condamne pas pour les fautes de la jeunesse. Et vous savez, les fautes de la jeunesse, on a beau dire, oui, mais on était jeunes à l'époque. Et oui, mais parfois, les fautes de la jeunesse, parfois, ils restent avec nous. Hein. Et même si Dieu nous pardonne, mais parfois, les conséquences restent avec nous. Le souvenir reste avec nous. La mémoire ne s'efface pas. Et la mémoire des autres, sur ce que j'ai fait dans ma jeunesse, ne s'efface pas non plus. J'ai aucun contrôle, même si Dieu me pardonne. Et parfois, je dois porter cela jusqu'à la gloire. La seule, est-ce que je serai délivré? Mais regardez avec moi dans Psaume 25. Psaume chapitre 20, le psaume 25. Le psaume 25 et le verset 7. Psaume 25, 7, il dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. » Il dit, Dieu, ne traite pas avec moi selon ce que j'ai fait quand j'étais jeune, mais traite avec moi selon ta miséricorde. Ecclésiaste 12, et Ecclésiaste, je viens de le dire, c'est Salomon qui écrit, Ecclésiaste 12, verset 1, il parle à son fils et il tire des leçons de sa propre vie. Il parle à son fils. Ecclésiaste 12, verset 1, il dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pour Dieu, on ne peut pas lui dire: ouais, mais j'étais jeune à l'époque. Aujourd'hui, on le dit. Et dans la société, on excuse beaucoup de choses. Oh, bon, c'est les jeunes. Hein, on entend tout le temps. Mais Dieu, il dit: non, non, mais même quand on est jeune, hein, et c'est sérieux qu'on enseigne nos enfants, même dans leur jeunesse, de marcher et d'être intègre devant Dieu. Dieu se souvient de cela. Et puis, dans le Nouveau Testament, Paul parle à Timothée. Timothée qui est pasteur, hein, jeune peut-être, mais qui est responsable d'une œuvre. Il dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, il dit: fuis les passions de la jeunesse. S'il le dit à Timothée, c'est que Timothée doit faire face. Hein, il dit: tu es jeune, et il y a des tentations, il y a des choses, mais il dit: fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi et l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dit: choisis tes fréquentations. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la fréquentation de personnes qui sont fidèles, qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dit: tu es responsable dès ta jeunesse. Et parfois, nous sommes obligés de vivre avec certaines choses. Parce que moi, je me souviens de ce que j'ai fait. Et il y a l'autre avec qui j'étais qui se souvient de ce que j'ai fait. Et il dit, et puis Dieu peut bien me pardonner, mais moi, hein, il y en a qui se souviennent. Alors il dit, même dans le monde, ça passe, ils sont jeunes. Mais devant Dieu, ça passe pas. Et Job finalement, il dit: Seigneur, est-ce que c'est les péchés de ma jeunesse que tu me rappelles? La question, c'est reconnaître que je suis pécheur devant Dieu. Hein? C'est pas une question de grand pécheur, petit pécheur, aujourd'hui, mais tout va bien, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Oui, mais Dieu te voit, parce qu'il veut, il regarde pas l'instant présent quand je me présente. Hein? Mais il voit tout ce que j'ai fait, tout mon état, toutes mes pensées. Pas seulement ce que j'ai fait, mais ce que j'aurais voulu faire, mais je n'ai pas osé. Hein? Tout cela est là, et lui le sait. Et donc, Job, du point de vue humain, ça, il était juste. Devant Dieu, c'était un homme qui avait quand même... C'était un pécheur. Et qui avait besoin d'être justifié. Et c'est de là que nous voyons la grâce de Dieu. Vu la justice humaine, la culpabilité de chacun, et puis la grâce de Dieu. Et Job, chapitre 33, et au verset 9... Job dit: je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Mais au verset 13, Dieu dit: veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis dans leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Dieu nous parle de manière différente. Et parfois il utilise les épreuves, parce que parfois on écoute un peu mieux pendant l'épreuve. Mais Dieu parle de diverses manières. Et pour chacun, c'est personnalisé. Et on ne peut pas se comparer à un autre. Et on ne peut pas dire à quelqu'un: écoute, Dieu, moi, il m'a fait comme ça. Bon, ben, c'est bien, mais il fera certainement autrement. Hein, Dieu est un Dieu qui ne manque pas d'idées, et manque pas de moyens de faire. Et donc Dieu agit et Dieu va parler. Et le but de Dieu dans la vie de Job, c'est pas lui dire, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il dit, Job, écoute, j'aimerais éviter que tu ailles mal. Le but de Dieu, c'est de détourner Job et de le préserver de l'orgueil. Dans le chapitre 33 et les versets 16 à 18, il dit, alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pour quoi faire? Il dit, alors, il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Il dit, parfois Dieu nous parle, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pour que ça n'aille pas. La prévention, n'importe quel homme, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et parfois Dieu agit, c'est pour que. Et Dieu lui parle. Parce que Job, regardez chapitre 29, regardez comment il parle. Et on pourrait être gêné un petit peu par sa manière de parler. Job chapitre 29, et à partir du verset 7, écoutez-le. Il parle de la vie qu'il avait avant d'être malade. Il dit, si je sortais pour aller à la porte de la ville et que si je... Et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait « heureux ». L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais la peur, le pauvre qui implorait mon secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste, j'arrachais de ses dents la proie. Vous savez, vous pourrez continuer, mais il est en train de parler. Voilà ce que j'étais, voilà ce que je fais, voilà. Vous savez, quand on commence à parler comme ça, l'orgueil n'est pas loin. Hein. Quand je commence à regarder à mes œuvres, et quand je commence à être content avec ce que je fais, je suis pas loin de l'orgueil. Dieu dit, Job, je sais que Satan, il veut faire du mal, il aimerait te faire du mal, mais moi aussi, je voudrais un peu prévenir quelque chose. Et donc, Dieu permet à l'épreuve d'arriver. Regardez, avec l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. 2 Corinthiens 12, 7. L'apôtre Paul, on dit, ça c'est un géant, moi je suis une souris à côté d'un éléphant, hein, comme une souris à côté d'un éléphant par rapport à Paul. Mais chapitre 12, verset 7, Paul dit lui-même, il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Souffleter, c'est des gifles, constamment je reçois des gifles. Et m'empêcher de m'enorgueillir. Voilà. Il dit, Dieu a tellement béni que pour équilibrer la chose, pour maintenir les choses dans l'ordre, il a dit, je suis obligé de permettre de la souffrance juste pour que maintenir l'équilibre. L'orgueil. Et le problème d'orgueil. Et ça, c'est un gros problème. L'orgueil et l'égoïsme, ça va ensemble et c'est une même faute et beaucoup de tout revient à l'orgueil, l'égoïsme. Et puis après, pour cela on est violent, pour cela on est injuste, pour cela on est... Tout découle de là. Et donc là, Dieu veut justement, il dit, Job, Tu sais, je t'aime tellement que je ne voudrais pas que l'orgueil se développe dans ton cœur. Donc j'ai permis à cette épreuve d'arriver dans ta vie pour t'en empêcher. Tellement je t'aime. Et une fois que Job aura compris cela, il dira, ah, merci, merci. Maintenant, je comprends quelque chose. Vraiment, maintenant, je comprends. Ce n'est pas une question de justice et d'œuvre de justice, c'est une question de cette attitude devant toi qui importe. Et quand Job reconnaît qu'il est pécheur, et vous lisez la suite du Job 33, vous voyez comment il a ce sentiment, c'est Élihu qui lui parle. Il dit, Job, en fait, tu avais une jambe dans la tombe, mais Dieu est intervenu. Il y a eu une rançon qui a été apportée, et tu as été délivré, et tu as un champ nouveau. Vous lisez la suite de Job 33, c'est un très beau passage. Mais dit Job, tu étais sur le point, tu avais un pied dans la tombe en fait, et Dieu t'a secouru, il est intervenu dans ta vie. C'était pas pour te détruire, c'était pour te restaurer, pour te relever. Et vous savez, nous en tant que, nous devons avoir cette confiance en Dieu aussi. Et quand Dieu nous fait passer, permet qu'on passe par une épreuve, se dire Dieu, si ça vient de toi, eh bien très bien, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Et quand tout cela aura passé, eh bien, finalement, qui aura justifié Job? Non pas ses œuvres, ce ne sont pas nos œuvres qui nous justifient. Romains 8 nous dit que c'est Dieu qui justifie. Hein, Romains 8, 33 dit que c'est Dieu qui justifie l'homme. Et même si on est aussi juste que Job, on a besoin d'être justifié par Dieu. Et c'est Dieu qui justifie. Je ne vais pas développer cette doctrine de la justification, mais Paul le développe dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Je veux terminer avec cette pensée, Job 42. Job 42, et je vous donne des idées, je ne dis pas tout, après je vous encourage à aller faire l'étude ou réécouter le message enregistré là sur le site de l'Église. Et puis de refaire l'étude, parce que c'est vraiment fascinant. Mais alors Job 42, verset 7, il dit, après que l'Éternel eut adressé les paroles à Job, il dit à Éliphaz, Éliphaz c'est l'un des trois amis, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Il dit, vous aviez tout faux. Vous avez essayé de le culpabiliser et tout était faux. C'est vous qui étiez dans l'erreur. Et vous l'avez fait souffrir inutilement. Il dit, prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers et allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Et Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait le serviteur Job. Il dit, vous m'avez mal représenté. Vous avez représenté une théorie, une doctrine qui est fausse. Et c'est grave pour ceux qui circulent avec des idées fausses dans nos milieux évangéliques, et qui apportent des valeurs fausses. Hein? Et il dit, demandez pardon, parce que vous traîtrisez du monde. Hein? Par exemple, l'évangile de prospérité. Aime Dieu, suis Dieu et il te donnera la richesse et tu auras tout ce qu'il te faudra. C'est faux. Et ceux qui le prêchent devront demander pardon de Dieu pour l'avoir fait parce qu'ils ont trompé du monde. Parce que des gens qui vont être déçus, ils vont croire que c'est Dieu qui les a abandonnés alors que ce n'était même pas vrai. Mais vous savez, quand vous lisez et vous arrivez à 33, c'est Élihu qui parle. Élihu, c'est le quatrième, c'est le petit jeune. Il a dit pendant longtemps, il n'a pas osé parler parce que les autres, chacun, ils ont parlé 3 fois. Mais finalement, ils n'avaient plus rien à dire et Job n'était pas convaincu. Alors Élihu parle, c'est le petit jeune, il parle. Et vous savez, quelque part, Dieu nous dit, il dit, vous les trois, demandez pardon. Mais il ne dira pas à Élihu, tu as mal parlé. Il dit, Élihu, tu as bien parlé. Et ce qui est étonnant même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'après que Élihu parle, eh bien, Dieu enchaîne. Chapitre 38, c'est là que Dieu commence à parler. Après que Élu parle, Dieu commence à parler à Job, et puis là, il y a toutes ces questions et tout ça, c'est extraordinaire. Parce que quand on parle avec, selon ce qui est juste, ce qui est selon la pensée de Dieu, eh bien Dieu peut enchaîner, il peut faire son œuvre. Et finalement, on aura ce chapitre 42, que je ne vais pas développer, mais où Job dit, eh bien, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant je te comprends autrement. Je te vois autrement. Tiens, Dieu merveilleux. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, pourquoi l'épreuve pour Job ? C'était pas pour le détruire. C'était pour prévenir. Aussi juste qu'il était, à l'instant même où Dieu a dit « il est intègre et juste », mais Dieu voyait que l'étape suivante, parce qu'il voyait évoluer la pensée, hein, il y avait les péchés de la jeunesse, puis il y avait cette époque-là qui était belle, puis après Dieu ne voulait pas qu'il aille dans autre chose, l'orgueil. Et Dieu a permis qu'une épreuve, il s'est servi de Satan qui avait envie de faire une épreuve, hein. Lui il ne manque pas, il est toujours disponible pour ça, il l'a laissé faire, et Dieu va s'en servir pour préserver Job. Et le résultat, combien de gens sont bénis par l'histoire de Job ? Parce qu'on voit la grâce de Dieu. Et soyons encouragés. Soyons encouragés. Nous avons un Dieu extraordinaire. Et qui cherche notre bien. Prions.